France Info.
Et bienvenue dans Les Informés, c'est parti pour une demi-heure de décryptage de l'actualité. Bonjour Renaud Delieu.
Bonjour Agathe.
Deux questions à la une ce matin. L'exécutif est-il prêt à suspendre la réforme des retraites, cette réforme maudite adoptée en 2023? Et puis, l'union des droites est-elle en marche? Pour nous éclairer autour de la table, nos informés, Valérie Gasse, chef du service politique du RFU. Bonjour Valérie.
Bonjour Agathe.
Gilles Bornstein, présentateur des 4 vérités sur France 2. Bonjour Gilles.
Bonjour. Bonjour Agathe, bonjour à tous.
Et Fanny Guinochet, éditorialiste économie à France Info. Bonjour Fanny.
Bonjour.
On commence avec notre premier débat. Renaud, quel sort pour la réforme des retraites? Est-ce que c'est vraiment en train de bouger?
Tic-tac, tic-tac. Oui. Hein, c'est donc le dernier jour de consultation de Sébastien Lecornu, qui va recevoir dans un peu moins d'une heure à Matignon les socialistes, et notamment Olivier Faure, le premier secrétaire du PS, qui quitte à l'instant ce studio. D'ailleurs, auparavant, Sébastien Lecornu fera une déclaration à 9h30. Il recevra ensuite les écologistes et les communistes. Bref, c'est donc aujourd'hui une journée consacrée à la gauche, avant qu'il rende sa copie ce soir au chef de l'État. Et une avancée majeure semble être, en tout cas en direction de la gauche, semble être enclenchée. La suspension de la réforme des retraites. Elisabeth Borne, qui était la première ministre qui a fait adopter cette réforme, se dit favorable à cette suspension chez nos confrères du Parisien aujourd'hui en France. C'est une condition de stabilité, dit-elle. Et d'ailleurs, cette hypothèse a été évoquée dès hier, en fin de journée, lors des consultations qu'a pu avoir Sébastien Lecornu, notamment avec Raphaël Glucksmann, l'eurodéputé Place Publique. C'est ce qu'il disait en sortant de Matignon hier soir.
Notre demande, qui était la suspension de la réforme des retraites, n'est pas inatteignable. Sa demande à être précisée. Il est pour moi très tard, je vais vous dire la vérité. Je ne sais pas si ce qu'on nous a proposé dans ce bureau est de nature à éviter une dissolution.
Alors, est-ce que Sébastien Lecornu va confirmer cette suspension de la réforme des retraites? C'est d'ailleurs ce qu'attend donc Olivier Faure, qui était votre invité il y a quelques minutes. Quelles en seraient les conséquences sur le plan économique? Combien ça coûterait la mise en œuvre donc de cette suspension? Et puis, est-ce que ça pourrait permettre de sortir du blocage politique actuel?
Valérie Gasse, tout à l'heure, Olivier Faure disait on ne sait pas si c'est un écran de fumée ou pas. J'attends avant de me réjouir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un écran de fumée, cette petite musique sur la suspension, ou c'est sérieux?
Si c'est un écran de fumée, j'ai envie de dire, c'est pas une bonne idée. Parce que dans le contexte où on est vraiment, comme le disait Renaud, dans le tic-tac, avancer sur ce terrain alors qu'on se dit qu'une des seules portes de sortie, ce serait en effet d'aller vers un Premier ministre, entre guillemets, de gauche, ou capable de d'obtenir un compromis avec la gauche, avancer sur le sujet qui est celui qu'ils ont brandi depuis que Sébastien Lecornu avait dit « bon, je renonce au 49-3 », c'était leur première demande aux socialistes. Là, un débat sur les retraites, c'est ce qu'ils attendent. Donc, mettre ça dans l'atmosphère pour ensuite se dédire en disant « non, c'était une idée d'Elisabeth Borne et puis on n'ira pas aussi loin », ça paraîtrait vraiment, alors là, ça ajouterait encore plus de confusion. C'est le sujet sur lequel il faut tendre une main. Après, forcément, dans le camp présidentiel, ça ne fait pas que des heureux. On a déjà entendu des voix qui grincent.
C'est le sujet qui permettrait de résoudre cette crise, Gilles Bornstein, ce nœud de la réforme des retraites?
Oui, en partie. J'ai pas l'impression que ça soit un écran de fumée. De toute façon, ça fait un certain temps que des responsables, même républicains, nous disent s'il faut en passer par là, passons-en par là. C'est toujours le coup. Fanny le dira, mais c'est entre le coût de l'instabilité et le coût de la suspension de la réforme. Beaucoup considèrent que, de toute façon, le coût de l'instabilité aujourd'hui est trop élevé. Ça a été chiffré.
Vous voulez dire qu'on est descendu tellement bas qu'au point où on en est, suspendre la réforme des retraites, c'est pas le pire?
C'est pas, on est, oui, si on est descendu tellement bas, et le fait d'une nouvelle crise gouvernementale, une nouvelle démission coûterait en image de la France et en milliards sonnant et trébuchant parce que l'instabilité gouvernementale coûte cher, qu'entre deux inconvénients, il faut choisir le moindre, et que cette suspension de la réforme des retraites, tout le monde sait que c'est pour un an. Après, il y a le chantier de l'élection présidentielle. Alors, Fanny nous dira, j'imagine, tout à l'heure combien ça coûte, mais je pense que c'est pas du tout un écran de fumée. On a appris hier que Sébastien Lecornu l'a fait chiffrer par Bercy. S'il l'a fait chiffrer il y a déjà plusieurs jours par Bercy, c'est qu'il était prêt à le proposer. Et pour la gauche, on sent aussi, entre l'abandon du 49-3 et la suspension de la réforme des retraites, je vous dis pas qu'un accord de non-censure est acquis avec ça, mais enfin,
ça commence
on avance,
à faire
c'est quand même deux revendications majeures dont personne autour de cette table n'aurait pu dire il y a une semaine ou il y a 10 jours qu'on aurait à la fois abandon du 49-3 et à la fois suspension de la réforme des retraites.
Les lumières de Fanny. Fanny, certains dans l'ex-majorité présidentielle disent que la suspension de la réforme des retraites, ça coûterait moins cher que la taxe Zucman. Est-ce que ce qui fait vraiment c'est la taxe Zucman? Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il en est?
C'est très compliqué parce que la taxe Zucman, vous n'avez pas un économiste qui est d'accord sur ce que ça rapporterait, et le delta, il est très large, c'est entre 5 et 15 milliards d'euros donc par an. Voilà pour la taxe Zucman. La difficulté, là, c'est que si suspension il y a, on risque d'avoir et la suspension et l'instabilité politique. Et donc là, le coût, il est faramineux.
C'est juste quoi le coût?
Le coût de la suspension de la réforme des retraites, si on se réfère au rapport de la Cour des comptes, qui a été remis en février dernier à la demande de François Bayrou, au moment du conclave, souvenez-vous, c'est 8 milliards d'euros par an à horizon 2030, c'est-à-dire d'ici 5 ans, et d'ici 10 ans, on passe à 13 milliards d'euros. Et puis c'est aussi un coût qu'on n'arrive pas à mesurer. Alors, c'est comment réagiront les marchés, les milieux d'affaires, les
investisseurs. Sébastien Lecornu, l'image que ça rend.
Voilà, et ça, c'est vrai qu'on n'a pas de chiffrage précis, mais vous avez un certain nombre d'économistes, d'observateurs des marchés financiers qui vous disent, pour les marchés, le fait d'avoir fait cette réforme, c'était un gage selon lequel la France pourrait remettre au moins en ordre de marche ses comptes, parce qu'on rappelle, encore une fois, que toutes ces décisions politiques se prennent dans un contexte économique extrêmement dégradé. La France est dernier de la classe en matière de taux d'emprunt aujourd'hui de sa dette.
Gilles, mais un petit mot.
Le coût à long terme, j'entends ce qu'on dit, mais tout le monde, j'imagine, a compris que la suspension, c'est pendant un an. Donc oui, il est légitime de coûter ce que ça coûte là, tout de suite, au budget de l'État. Mais tout le monde sait que, de toute façon, le dossier des retraites sera rediscuté lors de l'élection présidentielle. Après, passera un candidat qui propose de revenir à 62 ans ou qui, à l'inverse, propose d'aller plus loin. Mais il y a le coût immédiat de la suspension. Et après, ce qui compte, c'est le projet qui sera adopté en 2027. Sauf sur la réputation immédiate, évidemment.
Voilà, il y a la réputation, mais le coût immédiat, quand même, cette année, le régime des retraites est déjà en déficit de 6 milliards d'euros.
Mais alors que ce ne serait pas une abrogation pure et simple, l'idée, Renaud, c'est de décaler cette réforme en 2026, de geler l'âge à 63 ans, en attendant d'en discuter.
Lors de l'élection présidentielle, il faut rappeler d'ailleurs qu'à chaque fois que la gauche s'est opposée lorsqu'elle était dans l'opposition à une réforme des retraites conduite par un gouvernement de droite, elle n'a pas remis en cause cette réforme une fois qu'elle est arrivée au pouvoir. En 2012,
elle l'a faite comme François Hollande.
Voire il a même continué avec la réforme dite Touraine. Donc on verra si en 2027, selon celui qui arrive au pouvoir à ce moment-là, si la réforme est définitivement abrogée ou pas, attendons de voir. Mais je pense qu'il faut distinguer deux choses. C'est une concession majeure, extrêmement importante, que s'apprête à faire. Selon toute vraisemblance, Sébastien Lecornu à la gauche, la suspension de la réforme des retraites. Il y a les conséquences économiques et financières qu'évoquait à l'instant Fanny Guinochet, mais quelles sont les conséquences politiques de cette suspension? Est-ce que c'est effectivement une sortie de la crise politique? Je suis très loin d'en être convaincu à ce stade. Pourquoi? Parce que là, la gauche aurait quand même du mal, à commencer par les socialistes, à dire Sébastien Lecornu ne cède en rien, ne recule en rien. Il a déjà annoncé qu'il abandonnait le 49-3 pour rendre le pouvoir au Parlement. Visiblement, les parlementaires n'ont pas tellement envie de ce pouvoir, puisque personne n'a pris, me semble-t-il, la mesure de cette concession, qui permet quand même d'ouvrir vraiment le débat au Parlement. Là, il annoncerait la suspension de la réforme des retraites. La gauche serait obligée de dire bon, bah, ok, banco, on est content et on est prêt à prendre nos responsabilités. Sauf qu'il y a, à ce stade, alors qu'il est, il n'y a toujours pas de majorité pour soutenir au Parlement un gouvernement de gauche.
Ça ne serait pas un gouvernement de gauche.
Non, un gouvernement de gauche ou un gouvernement qui mènerait cette politique. On voit que Bruno Retailleau a fait exploser, enterrer le socle commun. Donc la droite est repassée dans l'opposition. Il a redit hier d'ailleurs qu'il ne soutiendrait aucun autre Premier ministre qu'un Premier ministre de droite. Pas un macroniste. Il a dit pas un macroniste très clairement et pas un Premier ministre de gauche. LFI est en guerre aujourd'hui avec les socialistes. Le Rassemblement National, a priori, veut absolument une dissolution, donc censurer à tout le monde. Donc on est toujours, avec la configuration actuelle de l'Assemblée, me semble-t-il, dans la même instabilité politique.
Est-ce qu'on est toujours dans l'impasse, Valérie Gasse, où vous voyez se dessiner une solution? Est-ce que vous croyez à un gouvernement de gauche? Est-ce que vous croyez à une reconduction de Sébastien Lecornu avec un gouvernement macroniste?
La question, c'est que c'est ou un gouvernement de gauche, ou en tout cas avec une personnalité qui puisse avoir la gauche de son côté, voilà, ou une dissolution. Parce qu'en effet, la situation que décrit Renaud, ben, elle est là, personne n'a de majorité. Donc, il faudrait trouver le moyen d'avoir quelqu'un qui ne soit pas un irritant, qui puisse en effet partir sur les bases des concessions qui ont été faites à la gauche, et peut-être trouver des compromis budgétaires en élargissant le cercle pour avoir les fameuses voix qu'il faut pour faire passer un budget. C'est loin d'être gagné. En fait, il n'y a pas de vraiment bonne solution. On est arrivé à un tel point de chaos, d'instabilité, d'incompréhension, d'incertitude, que l'issue, elle est de toute manière pas très bonne.
Quelqu'un qui ne serait pas un irritant, dit Valérie Gasse, ça pourrait être qui, Gilles Bornstein ?
Sébastien Lecornu, s'il paraît qu'ils se sont expliqués avec Bruno Retailleau et qu'ils ont réglé leurs problèmes de ouin-ouin, Bruno Le Maire au gouvernement, tu m'avais pas prévenu, patin couffin. Sébastien Lecornu n'est pas vraiment un irritant. Olivier Faure dit que c'est un gaulliste, c'est le dernier gaulliste, que les négociations avec lui
se passent bien.
Se passent bien.
Il dit aussi que s'il était Premier ministre, Olivier Faure, il garderait Sébastien Lecornu aux armées.
À la Défense et Jean-Noël Barrot. Et je vous ai écouté. Et Jean-Noël Barrot
aux affaires étrangères.
Sébastien, le problème de Sébastien Lecornu, c'est Emmanuel Macron. C'est que beaucoup de gens ont du mal à croire qu'il a acquis une certaine indépendance vis-à-vis d'Emmanuel Macron et ont beaucoup de mal à croire que quand il parle, ce n'est pas un ventriloque d'Emmanuel Macron. Sinon, lui n'est pas vraiment irritant. Évidemment, on est dans une situation extrêmement chaotique. Ce qu'on voit, c'est que quand même, ça bouge. C'est-à-dire que hier, Gabriel Attal, qui a organisé une rencontre avec des journalistes, laissait entendre que la suspension de la réforme des retraites, c'était pas non plus qu'il n'irait pas se rouler par terre dans les rues. On sent quand même que, de toute façon, ce qui est assez nouveau, c'est que la peur de la dissolution... On disait il y a 10 jours, les socialistes sont prêts à aller devant les électeurs. Bon, bah, quand j'entends les socialistes, quand on voit les sondages, j'ai l'impression qu'ils ont de moins en moins envie d'aller devant les électeurs. Les Républicains n'ont pas envie. Personne n'a envie, à part LFI et le RN qui ne décident pas, personne n'a envie d'aller devant les électeurs. Ça motive quand même. Ça motive quand même pour trouver des solutions.
Ils ont un peu joué à se faire peur et tout le monde redescend un peu en pression.
Tout le monde se calme.
Et ce qui est assez drôle ou pathétique, je sais pas comment il faut le dire, mais c'est que on assiste à des renversements. C'est-à-dire Gabriel Attal qui pendant des mois a expliqué que cette réforme des retraites, il fallait la faire quand il était Premier ministre et auparavant ministre des Comptes publics, avait dit déjà cet été que finalement la réforme par points où il fallait ne plus regarder l'âge, voir la cotisation, regarder du côté du nombre de trimestres qu'il fallait, est en train de virer sa cutie en disant bon bah écoutez, cette réforme des retraites, on peut s'asseoir dessus. Et de l'autre côté, les LR qui n'ont pas défendu la réforme des retraites, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui disent ah bah non, ça n'est pas possible.
Finalement,
on en a besoin pour les comptes. Donc vous voyez, finalement, chacun change son point de vue. Alors, est-ce que c'est la peur de la dissolution ou pas ? Mais en tout cas, c'est vrai que pour les électeurs, c'est compliqué de s'y retrouver.
Ce que dit Gilles Bornstein, pardon Gilles, est extrêmement juste. Personne ne veut absolument. C'est à la fois tout à fait juste,
que
tout le monde, non mais que personne au Bloc central, à droite et chez les socialistes, ne veut de la dissolution. Et c'est désastreux pour la vie politique et pour la vie démocratique, puisqu'on voit que dans les sondages, les Français veulent voter, que la situation est inextricable depuis plus d'un an, depuis 16 mois, et on a l'impression, effectivement, qu'un certain nombre d'acteurs, que plus personne ne regarde d'ailleurs à part nous, mais en tout cas que les Français, on l'entend à longueur d'antenne sur France Info, hein, les Français qui sont interrogés disent leur dégoût de ce qui est en train de se passer. Et la première préoccupation de ces acteurs-là, qui ont perdu, qui sont quand même considérablement discrédités aux yeux de l'opinion, c'est de surtout pas retourner devant les électeurs. Donc je pense que l'effet même de ce qui est vrai, hein, de cette grande trouille qui est commune au Bloc central, aux socialistes, à LR, est encore plus désastreux pour notre vie politique et notre vie démocratique. Parce qu'on voit bien que même si là, ce bricolage permettait de rafistoler pendant quelques semaines la configuration actuelle de l'Assemblée, ne permet pas de stabiliser la situation. Et qu'un retour aux urnes, qu'il s'agisse d'élections législatives ou d'élections présidentielles, semble assez inéluctable.
C'est de ne pas retourner devant les électeurs et c'est de revenir sur leurs convictions. La réforme Borne, c'est quand même Elisabeth Borne qui a porté cette réforme des retraites qui, aujourd'hui, dans Le Parisien, nous dit qu'il faut la suspendre.
Bon, on en oublierait presque que l'heure tourne et que le délai, le sursis accordé à Sébastien Lecornu prend fin ce soir.
Les informés, Renaud Dely, Agathe Lambret.
Les informés avec Valérie Gage, chef du service politique de RFI, Gilles Bornstein, présentateur des 4 vérités sur France 2. Je vous remercie, Fanny Guinochet, éditorialiste économie à France Info. Merci pour votre éclairage, notamment sur la réforme des retraites. On passe à notre deuxième débat, Renaud, Bruno Retailleau. Enterre le socle commun.
Effectivement, Bruno Retailleau a en ce moment une vocation de croque-mort qui se révèle peu à peu. Il a donc enterré le socle commun en déclenchant cette crise gouvernementale et en provoquant la démission de Sébastien Lecornu. Ça, c'était dimanche soir. Et puis hier, il a donné un dernier coup de pelle au Front Républicain, qui était déjà bien mal en point, en annonçant, en appelant ses électeurs à voter, à battre la candidate socialiste opposée au second tour d'une législative partielle dans le Tarn-et-Garonne à un candidat du parti d'Éric Ciotti soutenu par le Rassemblement national. Pardon. Pas une voix pour la candidate socialiste, a répété Bruno Retailleau, le jour même où d'ailleurs Jordan Bardella, le patron du RN, a proposé un accord de gouvernement aux Républicains en cas d'élection législative. Alors, est-ce que Bruno Retailleau serait prêt à un accord avec le RN ? Non. Il a récusé cette hypothèse. C'était hier soir au journal de 20h de France 2.
C'est non, je l'ai dit. Sur le plateau d'une chaîne de télévision, d'information, M. Tanguy m'insultait en me traitant de salaud. Il y a quelques semaines, un de vos confrères, sur une autre chaîne, demandait à Marine Le Pen si elle devait choisir entre M. Faure et Bruno Retailleau, qui elle choisirait. Rien.
Bruno Retailleau ne veut donc pas d'alliance avec le RN. Pourquoi ? Parce que le RN lui parle mal, hein, dit-il. Le RN l'insulte. Mais sinon, sur le fond, quelles sont aujourd'hui encore les différences entre LR et le RN ? Sur les sujets régaliens, il n'y en a plus. Hein, immigration, sécurité, islam, il revendique d'ailleurs le même discours et le même programme. Et puis sur les questions économiques et sociales, on voit bien que Jordan Bardella, notamment, est en train un peu de passer par-dessus bord le versant social du programme du RN pour séduire les patrons. Donc va-t-on vers un rapprochement entre la droite et l'extrême droite ? Et est-ce que la prise de position hier de Bruno Retailleau sur cette élection partielle n'en est pas l'illustration ? Notons d'ailleurs qu'aucune voix à droite, hein, au sein de LR, n'a critiqué la prise de position du patron de LR.
Oui, c'est pour ça que moi j'ai du mal à comprendre, Gilles, quand Bruno Retailleau dit une alliance entre le LR et le RN, c'est non comme si c'était une évidence, alors qu'il envoie tous les signaux d'un rapprochement. Oui. Mais peut-être qu'il y a une stratégie derrière ?
Moi, j'ai l'impression qu'il est perdu. J'ai l'impression qu'il est un peu, il sait pas trop où il va, qu'il y a eu cette déclaration, ce fameux tweet à 21h40 l'autre jour, actant son départ du gouvernement, et que depuis, il hésite, qu'il avait fait ce choix de cette participation au gouvernement. Peut-être se sent-il piégé. Je suis d'accord avec Renaud pour dire que cette prise de position dans cette élection, ça arrive toujours par des endroits qu'on n'avait pas vu venir. Cette élection partielle du Tarn-et-Garonne est quand même sidérante, parce que l'adversaire de ce candidat ciottiste n'est pas un LFI, c'est une socialiste à visage humain, si je puis dire. D'ailleurs, Manuel Valls, à l'instant même, au cas de vérité, appelait clairement, a dit « Moi, j'appelle à voter pour la socialiste ». C'est vous dire à quel point, à l'intérieur de ce qu'était le socle commun, on n'est pas d'accord du tout. Donc, pour revenir à votre question, je pense que, oui, qu'il est un peu perdu, qu'il est tenté, il voit ce qui se passe de l'autre côté des Alpes, il voit que Giorgia Meloni, avec un accord de droite et d'extrême droite, est au gouvernement depuis maintenant 3 ans, que nos confrères italiens disent que ça fonctionne plutôt bien, qu'il a peur, avec que ça soit un soutien sans participation, qu'il a peur d'être assimilé au macronisme déclinant. Tout le monde, même les plus proches du président de la République, s'éloigne du président de la République, donc il se dit que lui aussi, et que Nicolas Sarkozy, dans une interview au Figaro il y a quelques jours, disait « le Rassemblement National a le droit de participer aux élections, il a même le droit de les gagner ». Il hésite, Bruno Retailleau, et je crois qu'il sait pas très bien, il n'a pas très bien décidé.
Bruno Retailleau qui n'a plus rien de commun avec le socle commun. Valérie, il y a une bascule qui est en train de s'opérer, parce que ces derniers mois, quand il était au gouvernement, il essayait plutôt de mettre en avant son côté un peu plus consensuel, en tout cas moins irritant. Maintenant, là, il se lâche et il se rapproche clairement des...
Je suis d'accord avec Gilles, je sais pas s'il se lâche ou s'il est dans des hésitations perpétuelles. Et pour rebondir sur ce que disait Renaud et le côté croque-mort, je ne sais pas si c'est pas lui qu'il est en train d'enterrer, Bruno Retailleau, tout seul avec ses tergiversations, ses allers-retours. Cette prise de position, en effet, sur la législative partielle qui est sortie de nulle part et qui a jeté un trouble évident dans un contexte où, en effet, on parle de cette alliance des droites. Et donc, il veut en effet se différencier d'Emmanuel Macron, pourquoi pas. Mais en fait, on ne sait pas où il va. Il est dans sa... Et tout ça profite surtout à Laurent Wauquiez, qui a bien appuyé sur là où ça fait mal, en disant que Bruno Retailleau avait dégradé l'image des LR. Donc on a un Bruno Retailleau dont on va voir comment il se dépatouille dans les prochaines heures et dans les prochains jours, mais qui en effet est un peu aux fraises.
Le mot de la fin, Renaud.
Laurent Wauquiez qui a dit que Bruno Retailleau avait dégradé l'image des LR en provoquant la crise gouvernementale. Hein.
Pas, oui,
en
oui,
appelant,
oui, bien sûr.
Pas en appelant pas, à battre la candidate socialiste.
Non, pas en appelant, pas en appelant.
Parce que ça, en fait, c'est le droit fil d'une évolution de LR qui est déjà entamée depuis un certain temps, y compris par Laurent Wauquiez d'ailleurs, et qu'on voit à l'œuvre, notamment en Italie, comme l'a dit Gilles Bornstein.
Merci beaucoup les informés. Merci Valérie Gache, chef du service politique de RFI. Merci Gilles Bornstein, présentateur des 4 vérités sur France 2. Nous, Renaud, on se retrouve demain.
À demain, Agathe.
À demain, et vous retrouvez les informés ce soir à 20h avec Victor Matet.